Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle « Lumière sur le monde ». Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque, tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompé pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que, tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le shérer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère surtout que vous ne perdez pas espoir. Il ne faut pas perdre espoir en pleine guerre. Nous sommes en guerre. Ariel Henry et sa bande de traîtres nous ont déclaré la guerre. Le Canada, les États-Unis et ce qu'on appelle les Nations Unies nous ont déclaré la guerre. Ce n'est pas le temps de baisser les bras. C'est au contraire le temps de nous armer de courage. C'est le temps de puiser dans notre histoire toute l'énergie dont nous avons besoin pour tenir tête aux ennemis du dedans, tout comme aux ennemis du dehors. Cette semaine, beaucoup de choses se sont passées, que ce soit en Haïti, que ce soit à l'étranger, donc au siège des Nations Unies. Autant de choses qui nous révèlent que la muraille, cette prétendue forteresse que le Canada, les États-Unis, l'ONU semblent constituer, non, cette muraille commence un tout petit peu à se lézarder. Et vous savez pourquoi cette muraille commence à se lézarder? Elle se lézarde parce que nous nous manifestons. Elle se lézarde parce que nous exprimons notre colère, parce que nous exprimons notre ras-le-bol. Il y a donc des fissures dans cette muraille qui nous paraissaient imprenables. Cette muraille que les États-Unis, le Canada, n'est-ce pas, les Nations Unies se ont dressée devant nous pour nous donner l'impression qu'il y avait une crise humanitaire en Haïti, pour nous donner l'impression qu'il y avait une crise alimentaire en Haïti et qu'il n'y avait rien à faire sinon que de dépêcher sur le territoire de Jean-Jacques Dessalines une armée multinationale. Or, quand on dresse le bilan de ces 20 dernières années, sinon plus, puisque ces diverses missions se sont succédées sur le territoire de Dessalines depuis 1993, et quand on prend le temps de dresser le bilan, zéro. Il n'y a que du passif, il n'y a que du choléra, il n'y a que des agressions sexuelles, il n'y a que des assauts répétés sur nos jeunes. En sorte que, à moins que nous ne soyons de mauvaise foi ou que nous ne soyons amnésiques, nous devons combattre de toutes nos forces ce complot qui est en train d'être ourdi par le Canada, les États-Unis et les Nations Unies, aidés de quelques traîtres de l'intérieur, les Ariel Henry et leur bande. Alors, puisque nous disons non, puisque nous manifestons notre hostilité à cela, eh bien, cette forteresse que nos ennemis du dedans et du dehors ont dressée devant nous commence à se fissurer. Je vous expliquerai tout cela. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre de nous décourager. Nous devons nous armer de force pour marcher sur l'ennemi, pour lui dire plus jamais aucun soldat étranger sur le sol de Jean-Jacques Dessalines. Que d'analyse n'allons-nous faire ce matin ? Je vous veux éveiller, vous connaissez notre rituel. À ce stade-ci, une belle tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à nous garder éveillés, car ce matin encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Restez là, à tout à l'heure. Le voici, il vient de sortir de presse. Eh bien, comme convenu, depuis le 1er octobre, donc il est disponible, et ceux qui l'avaient précommandé sont en train de le recevoir ou vont le recevoir. Au fait, ceux qui avaient commandé la version française sont en train de recevoir leur copie. Quant à la version anglaise, elle sort de presse le 10 octobre prochain, et si vous l'aviez précommandé, vous allez recevoir votre copie dans les jours qui suivent. C'est une biographie à laquelle j'ai consacré beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie, plus de 390 pages de biographie sur Toussaint Louverture. On y découvre un Toussaint Louverture très fier, un Toussaint Louverture sans complexe, un Toussaint Louverture très proche de son peuple. Il recevait tous les soirs en sa résidence Monsieur et Madame Tout-le-Monde pour s'assurer que ses politiques publiques étaient en parfaite adéquation avec les besoins de son peuple. On y découvre aussi un Toussaint Louverture qui construisait des écoles, qui construisait des villes, un Toussaint Louverture qui prononçait des discours dans l'intention ferme que ses phrases soient retenues par la postérité. Et en parlant de phrases, je vais vous faire une citation au fait de Toussaint Louverture. C'est l'une de ces phrases que je préfère, d'autant qu'elle est pertinente dans notre Haïti d'aujourd'hui. Écoutez ce qu'avait prononcé Toussaint Louverture lors d'un discours au Mall Saint-Nicolas. « Il est facile d'abattre l'arbre de la liberté, mais pas si facile de lui redonner vie. » Je pense que nous sommes en train de vivre cela. « Il est tellement facile d'abattre quelque chose de grand, quelque chose de noble, mais s'agissant de reconstruire, n'est-ce pas, cet héritage, c'est plus difficile. » Honnêtement, c'est un livre à avoir, c'est un livre à lire en tant que noir, en tant qu'haïtien, en tant que personne de bonne volonté qui s'intéresse à l'autodétermination des peuples. C'est un livre à donner, à passer à ses enfants pour qu'on réalise à quel point nos ancêtres étaient en avance sur leur temps. Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime, désormais disponible partout et en particulier sur mon site, Toussaint Louverture. Avez-vous votre copie? Allez, à bientôt. Avant la pause, je vous avais promis de m'arrêter sur les fissures qui sont visibles déjà dans la forteresse que le Canada, que les États-Unis, je vais nommer ces deux nations ad nauseam au cours de l'émission de ce matin, car c'est de ces deux pays-là qu'il s'agit en ce qui a trait à ce dernier complot qu'on est en train d'ourdir contre le peuple haïtien. Donc, avant la pause, on s'était promis de regarder les fissures qui sont en train de se dessiner sur la forteresse affichée du Canada et des États-Unis. Quand vous analysez le comportement des diplomates, surtout quand on fait de la high politics, quand on regarde, n'est-ce pas, le comportement des nations les unes vis-à-vis des autres, surtout quand on regarde, n'est-ce pas, une certaine unité affichée par un certain groupe de nations, vous devez vous intéresser aux libellés, vous devez vous intéresser aux communiqués, vous devez vous intéresser aux formulations publiques s'agissant, dans le cas d'Haïti, d'une intervention militaire dont il nous menace déjà depuis l'ouverture officielle de la 77e Assemblée générale des Nations Unies. Car déjà, à cette ouverture officielle de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Canada de Justin Trudeau était déjà à l'œuvre. Le Canada de Justin Trudeau était déjà en train de grenouiller, était déjà en train de glaner quelques appuis par-ci, par-là, de-ci, de-là, pour essayer de convaincre le monde qu'il y avait une crise humanitaire en Haïti, pour essayer de convaincre le monde qu'il y avait, si vous voulez, n'est-ce pas, une crise alimentaire en Haïti, et que la solution à ces deux pseudo-crises n'est rien d'autre que l'envoi d'une armée multinationale en Haïti. Si je viens de vous dire que déjà à l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations Unies cet automne, Justin Trudeau était en train de grenouiller pour, n'est-ce pas, envahir illégalement le pays de Jean-Jacques Dessalines, de fait, je dois remonter même avant. Je dois vous ramener aux funérailles, aux obsèques nationales de Jovenel Moïse le 23 juillet 2021. Vous vous souvenez, le président Jovenel ayant été assassiné un 7 juillet, eh bien, deux semaines après, et la communauté internationale, donc l'Assemblée des Nations Malveillantes, ont exercé, donc ces nations-là ont exercé beaucoup de pression sur la famille, n'est-ce pas, du président, pour que les funérailles se déroulent dans un délai ne dépassant pas deux semaines. Vous vous souvenez de cela ? Martine Moïse se trouvait, n'est-ce pas, dans un hôpital en Floride. Elle s'est dépêchée de rentrer sous la pression des services secrets américains, sous la pression du Canada aussi, pour que les funérailles se déroulent très vite. Parce que plus on attendait pour les funérailles, plus il y avait des possibilités, plus il y avait des risques au sein de la population haïtienne d'une révolte contre le pouvoir mis en place par le corps groupe, d'une révolte contre la présence de certains diplomates étrangers accrédités à Port-au-Prince. Donc, rien à faire, on exerçait beaucoup de pression sur la famille du président pour que les funérailles se déroulent en un temps record. La famille, dans un premier temps, songeait à enterrer Jovenel Moïse un mois après son assassinat, car on reconnaissait la pression que le cadavre du président constituait pour les criminels qui étaient toujours en fuite et surtout pour les États-Unis qui étaient et qui sont impliqués dans cet assassinat, dois-je le rappeler. Non, on a exercé de la pression sur la famille pour enterrer Jovenel le plus vite possible de manière à écarter, de manière à mitiger toute pression liée à la présence du cadavre, de manière à diminuer tout risque d'une révolte populaire, de manière à réclamer donc une véritable enquête. Jovenel Moïse a été enterré le 23 juillet 2021, le jour même, à Fort Lauderdale, les diplomates étrangers qui ont assisté aux funérailles se sont rencontrés dans un aéroport privé à Fort Lauderdale, et l'un de ceux qui étaient présents, c'était Bob Rae. Et il a été décidé, suivez-moi bien, que c'est le Canada qui prendrait le leadership de cette tutelle qui ne dit pas son nom sur Haïti, et que cette tutelle allait se transformer rapidement en une invasion militaire qui, cette fois-ci, devait durer au moins 50 ans. Pourquoi le Canada, me direz-vous? Parce que les États-Unis savent qu'ils ne jouissent pas d'un taux de popularité élevé. Pour le dire franchement, les Haïtiens détestent avec raison de plus en plus la politique étrangère américaine vis-à-vis d'Haïti. Et puisque par naïveté, les Haïtiens ont une belle impression, une plutôt bonne impression du Canada, le Canada qui est perçu comme le pays des casques bleus, des gens qui vont, n'est-ce pas, sur des territoires étrangers pour, n'est-ce pas, établir la paix, puisque le Canada est perçu par naïveté, car c'est une fausse image, comme un pays, n'est-ce pas, qui aide, comme un pays qui coopère, comme un pays qui n'a pas de visée, n'est-ce pas, hégémonique, eh bien, il a été décidé que dans cette invasion illégale qui se préparait sur Haïti, dans cette tutelle qui devait être resserrée sur Haïti, c'est le Canada qui devait en assurer le leadership. En sorte que, conformément à ce qui a été décidé à cette rencontre du 23 juillet 2021, dès le lendemain, Bob Rae est allé d'une conférence de presse au siège des Nations Unies pour se plaindre du fait que Haïti est livrée à elle-même et qu'on ne peut pas abandonner, n'est-ce pas, le peuple haïtien à son propre sort et qu'il faut venir à son secours. Et pour venir à son secours, il fallait organiser des élections le plus rapidement possible. Et dans ce complot macabre, qui ne tient pas compte du deuil du peuple haïtien, qui ne tient pas compte de la souffrance qu'on venait d'infliger au peuple haïtien, il a été décidé qu'on devait organiser des élections dans les 90 jours suivant les funérailles de Jovenel Moïse. Imaginez un pays dont les structures étatiques ont été systématiquement détruites par les diverses missions onusiennes en Haïti depuis 1993. Imaginez un pays qui n'avait même pas de conseil électoral provisoire, un pays dont on disait, peu importe l'assassinat macabre qui venait d'y être perpétré, il n'y avait rien à faire, il fallait organiser des élections coûte que coûte, de manière à imposer aux Haïtiens un autre Michel Martelly. Pourquoi un autre Michel Martelly? Bien parce que Michel Martelly est très docile à la volonté des États-Unis. Il est très docile à la volonté du Canada. Ces deux pays qui sont en train de voler nos ressources minières par l'entremise de leurs entreprises. Ces deux pays qui font pression, et je vais vous en parler tout à l'heure, n'est-ce pas, quand il s'agit de voter une loi au sein du Parlement haïtien, dépositaire de la souveraineté nationale, le Canada et les États-Unis n'hésitent pas à dépêcher leur propre ambassadeur pour faire pression sur chaque sénateur, pour faire pression sur chaque député, je vais vous en parler. Et donc, on a confié le leadership de cette tutelle, on a confié le leadership de cette invasion illégale d'Haïti au Canada, parce que le Canada, contrairement aux États-Unis qui sont honnis avec raison, contrairement aux États-Unis qui ne jouissent d'aucune popularité en Haïti, eh bien on s'est dit, le Canada, lui, est perçu comme un pays avec un visage angélique, eh bien il peut continuer à nous infliger toutes sortes de méchancetés, le peuple haïtien ne s'en rend pas compte. Sauf que ce peuple haïtien est en train, heureusement, de perdre toute naïveté vis-à-vis du Canada. Le peuple haïtien n'oubliera pas que c'est le même Canada qui avait renversé, à la suite de cette fameuse rencontre initiative d'Ottawa sur Haïti, n'est-ce pas? C'est ce même Canada qui avait décidé de renverser un gouvernement démocratiquement élu, le seul d'ailleurs dans toute l'histoire du pays, à la veille de la célébration du 200e anniversaire de notre indépendance. Donc aujourd'hui, le Canada ne peut plus bénéficier de cet amour naïf que nous lui vouons jusque-là. Le Canada, c'est un pays néocolonialiste au même titre que la France. Le Canada, c'est un pays néocolonialiste au même titre que les États-Unis. Et je vous ferai la démonstration que les pires ennemis d'Haïti aujourd'hui, les pires ennemis du peuple haïtien aujourd'hui, ce sont précisément le Canada et les États-Unis. Ce n'est pas parce que Justin Trudeau sourit, Ce n'est pas parce que Justin Trudeau verse des larmes qu'il faut le croire, c'est un hypocrite. Et j'aime à dire que le Canada, c'est un État hypocrite. Le Canada fait compte donc parmi les pires ennemis d'Haïti aujourd'hui. Car le Canada grenouille. Le Canada complote. Le Canada établit une toile d'araignée de manière à justifier l'invasion d'Haïti pour les 50 prochaines années. Ils ont même forgé un nom de code pour nous imposer cette tutelle. Le nom de code, donc, c'est Némésis. Il faut se venger de ce peuple de nègres qui a osé renverser l'ordre international, l'ordre esclavagiste au 19e siècle. Alors, tout cela semblait bien huilé. La machine infernale des États-Unis, la machine infernale du Canada semblait bien fonctionner jusque-là. Comment cela marchait-il? Eh bien, ils ont laissé pourrir une situation. Ils ont laissé entrer des armes de guerre en Haïti, des armes de guerre qui sont toutes parties de Miami, ça tous les services de renseignement vous le disent. Tous ceux qui lisent sur le sujet vous disent que les armes qui atterrissent dans les mains de ces jeunes gangstérisés sont toutes parties des États-Unis. Donc on comprend que si les États-Unis voulaient vraiment aider Haïti à résoudre son problème d'insécurité, eh bien, les États-Unis commenceraient à régler le problème en aval, enfin, en amont. Les États-Unis commenceraient à juguler le mal, n'est-ce pas, en amont, plutôt que de s'en inquiéter en aval. Si c'est vrai que le Canada voulait aider Haïti à résoudre son problème d'insécurité, eh bien, le Canada commencerait par aider Haïti à suivre, n'est-ce pas, les armes, et on découvrirait que ces armes partent de Miami, transitent par la République dominicaine et atterrissent soit dans les ports privés de Bijo, ou, n'est-ce pas, atterrissent chez des gens qui ont l'autorité de commander des armes pour les acheminer ensuite vers ces jeunes désœuvrés qui sont gangstérisés. Vous notez que lorsque je vais parler de ces jeunes qui commettent des crimes, je n'ai pas dit qu'ils sont des anges, ils commettent des crimes réels, mais ce sont des jeunes qui sont gangstérisés, à la fois par les autorités étatiques, à la fois par ceux qui ont le pouvoir de commander et d'importer des armes, au su et au vu des États-Unis et du Canada, mais ce sont des jeunes qui sont gangstérisés, ayons le courage de le dire, par Madame Lalime. Madame Lalime, c'est la représentante officielle du BINU, Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Et quelle est la mission? Si vous prenez le temps de lire l'énoncé de mission du BINU, eh bien, le BINU, il est là pour aider au renforcement des droits de l'homme en Haïti, pour aider au renforcement des institutions démocratiques en Haïti. Et imaginez, chers amis, pince sans rire, Madame Lalime m'a dit, et je veux bien la croire, qu'il faut recommander la fédération des gangs en Haïti. Pour quelle raison? Cela nous permettra, disait-elle, de mieux les contrôler. Donc, les gangs qui pullulent dans l'agglomération de Port-au-Prince, non seulement Madame Lalime en est-elle bien informée, mais elle les contrôle. À plusieurs reprises, elle est allée présenter son adresse aux Nations Unies. Elle est en mesure de nous dire combien de gangs il y a en Haïti, combien de jeunes gangstérisés qui se retrouvent dans chacun de ces gangs. Elle était même en mesure de dire aux Nations Unies, voici où on les retrouve, voici dans quelle partie de Port-au-Prince on les retrouve. Fine! Ça veut dire que Madame Lalime dispose d'informations précises sur ces gangs-là. Et mieux, c'est elle qui l'avait dit, elle les contrôle. Donc les amis, ce à quoi nous assistons en Haïti depuis au moins 3 ans, depuis que Barbecue, n'est-ce pas, à la tête du G9, a décidé de couper le pays en deux, a décidé de prendre d'assaut, n'est-ce pas, le quartier de Martissant, empêchant ainsi de se rendre, n'est-ce pas, empêchant ainsi les gens de se rendre dans le sud d'Haïti. Cela, ce n'est pas le travail de Barbecue. Barbecue remplit la mission à lui confiée par des oligarques et surtout par Madame Lalim. Cela s'appelle, chers amis, en communication politique, de l'ingénierie sociale. On place un certain nombre d'éléments, on met en place, n'est-ce pas, une déstructuration de l'État, on déstabilise un pays de manière à nous faire accepter une solution que ceux-là même qui ont créé le problème vont nous proposer. Cela s'appelle justement le syndrome du pyromane qui veut se faire passer pour un pompier. Et c'est précisément ce que représentent les États-Unis et le Canada. Et je vous ai dit à quelques reprises, lorsqu'on avait commencé à assister à ce phénomène de gangstérisation de l'agglomération de Port-au-Prince, des représentants de la communauté haïtienne de Montréal qui œuvrent au sein d'une organisation qui a pour nom Solidarité Québec-Haïti, des représentants donc de la communauté haïtienne de Montréal, accompagnés de quelques Québécois de bonne foi, sont allés rencontrer le chef de cabinet de Justin Trudeau. Et vous savez quelle a été la réponse de Justin Trudeau? Vous savez, ouais, le phénomène des gangs, c'est beaucoup plus compliqué que cela. On peut rien faire pour l'instant. Retenez bien, on ne peut rien faire pour l'instant. Pour quelle raison? Parce que jusque-là, la situation n'avait pas encore atteint son degré de pourrissement pour justifier leur invasion.
Depuis plus de 40 ans, il est le visage de la fiabilité, du sérieux et du professionnalisme en matière de produits financiers. Son nom, Louis-Yves Lucien. Pour toutes vos questions concernant la vente, l'achat, le financement ou le refinancement d'une propriété au Québec, c'est lui la solution. Louis-Yves Lucien, au téléphone 514-867-8352. Son email, lilucien@commercialroyallepage.ca. Louis-Yves Lucien, la fiabilité à portée de main.
Donc quand vous me parlez de crise humanitaire en Haïti, quand vous me parlez de crise alimentaire en Haïti, oups, ne nous prenez pas pour des canards sauvages. Nous savons que c'est vous qui êtes derrière ça, vous de l'international, aidé de quelques oligarques et de quelques traîtres nationaux qui font de l'argent en gangstérisant des jeunes désœuvrés. Ne me dites pas qu'il y a une crise humanitaire en Haïti. S'il y en a une, c'est vous qui l'avez créée. Vous, le Canada, vous, les États-Unis, et vous, les oligarques et les autorités haïtiennes. Vous avez laissé pourrir la situation pour justifier une invasion militaire de 50 ans qui a déjà été planifiée par le Canada et les États-Unis. On a seulement laissé pourrir la situation de manière à nous convaincre, nous, le bon vieux peuple, qu'il n'y a rien à faire et qu'il faut accepter que le Canada et les États-Unis nous envoient des soldats pédophiles qui vont venir engrosser nos jeunes filles de moins de 18 ans, qui vont venir sodomiser comme ils l'ont toujours fait nos jeunes garçons, qui vont venir, n'est-ce pas, nous apporter le choléra une fois de plus. Non, mille fois non. Vous avez déjà essayé cette recette raciste chez nous, à 10 reprises au moins, de 93 jusqu'à nos jours. Vous ne reviendrez pas chez nous. Tout semblait marcher comme sur des roulettes. Jusqu'à ce que le peuple haïtien décide de dire non. Vous m'avez eu une première fois en 93. Vous m'avez eu une première fois en 94, vous m'avez eu une autre fois en 2004, et depuis, vous m'avez eu deux autres fois, au total, vous m'avez eu 10 fois, basta, ça suffit, vous n'entrerez plus chez nous. Et là, le système est ébranlé. Les experts en communication dans les chancelleries canadiennes et les États-Unis n'avaient pas, et des États-Unis n'avaient pas prévu cette espèce de levée de bouclier du côté des Haïtiens. Il n'avait pas anticipé ce sursaut populaire, ce sursaut collectif par lequel nous disons non, vous n'allez pas entrer chez nous car nous savons pourquoi vous voulez entrer chez nous. Cette crise humanitaire, si elle existe, c'est vous qui l'avez créée. Cette crise humanitaire ou alimentaire, si elle existe, c'est vous qui l'avez laissée pourrir. Vous l'avez laissée pourrir dans deux buts. Nous envahir pour contrôler l'agenda politique et continuer à placer à la tête du pays, n'est-ce pas, des salauds qui n'ont aucune sensibilité patriotique, qui n'ont aucune sensibilité populaire. Mais vous avez laissé pourrir la situation de manière à nous envahir pour voler nos ressources pendant 50 ans et faire de nous, comble d'insultes, une province de la République dominicaine. Non, cela ne passera pas. Et puisque nous avons ébranlé la forteresse du Canada et des États-Unis, au sein des Nations Unies, ils ne savent plus à quel saint se vouer. Et si vous avez prêté attention à l'actualité politique d'Haïti telle qu'elle est présentée au siège des Nations Unies, vous avez vu qu'il y a de légers changements dans le libellé de leur résolution. Au tout début de cette affaire, lorsque il y a 3 ou 4 semaines, cette menace d'une invasion illégale d'Haïti par une armée multi-étrangère, n'est-ce pas, ou multinationale, commençait à prendre forme, on parlait clairement d'envoyer une armée multinationale en Haïti. Dans quel but? Dans le but de juguler cette crise humanitaire, mon œil, dans le but de juguler cette crise alimentaire, mon œil, et de pacifier le pays de manière à ce qu'il y ait des élections. Mais vous notez que, depuis 3 ou 4 jours, la résolution change de forme. On ne parle plus clairement d'envoyer une armée étrangère en Haïti. On ne parle plus clairement d'envoyer une armée multinationale en Haïti. On parle au contraire, n'est-ce pas, de sanctionner les gangsters. On parle au contraire de sanctionner ceux qui les financent. Tout ça s'appelle de l'enfumage. Ils sont emmerdés par notre révolte. Ils sont emmerdés par nos diverses manifestations. Regardez, cette fin de semaine, il y a eu des manifestations à Ottawa pour dire non à Trudeau, non à ses visées hégémoniques, non à ses visées néocolonialistes, non à ses visées racistes. Haïti ne vous a rien fait, Haïti ne vous a rien demandé non plus. Restez chez vous, arrêtez de nous envoyer des soldats pédophiles, des soldats qui vont sodomiser nos jeunes et engrosser nos jeunes filles de moins de 18 ans. Il y a eu la semaine dernière et même cette fin de semaine des manifestations contre l'envoi d'une armée étrangère en Haïti aux États-Unis. Et là, puisqu'il y aura des élections de mi-mandat aux États-Unis, puisqu'au Canada, nous avons un gouvernement minoritaire, eh bien, Trudeau ne voudrait pas tellement que l'opinion internationale sache les véritables enjeux. Trudeau ne voudrait pas que l'opinion canadienne sache les en dessous, n'est-ce pas, de ce plan macabre d'une invasion d'Haïti pendant 50 ans. Il rétropédale en modifiant le libellé de la résolution aux Nations Unies. On ne parle plus d'une armée multinationale onusienne, on ne parle plus du moins de l'envoi d'une armée en Haïti, on dit on va plutôt, n'est-ce pas, punir ceux qui sont dans les gangs, et lorsque vous entendez les noms, c'est les petits joueurs. Qu'est-ce que ça me fait que vous menaciez de couper le visa de barbecue? Non, ça c'est de l'enfumage. Il ne faut pas seulement punir barbecue et lui couper le visa, le menacer de toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Cela ne sert à rien. Il faut remonter à ceux qui alimentent barbecue en armes. Il faut remonter à ceux qui alimentent barbecue en munitions. Et comme si les services secrets du Canada ou les services secrets des Américains ne le savaient pas, moi je vais les aider, je vais leur donner des noms. Si vous voulez savoir qui arme les gangs en Haïti, je vous donne des noms. Bidjo. Si vous voulez savoir qui arme les gangs en Haïti, je vous donne d'autres noms. Bossan. Si vous voulez savoir qui arme les gangs en Haïti, je vous donne un autre nom, les Meuses. Et mieux, je vous donne Michel Martelly, votre ami, lui qui vit à Miami. Donc si vous voulez sanctionner ceux qui financent les gangs, ceux qui les arment, ceux qui leur fournissent des munitions, je vous donne des noms, Ronnie Célestin. Je vous donne des noms, Joseph Lambert. Je vous donne des noms, Gracia Delva. Ce sont tous ces petits salauds-là qui, pour soit nuire à des concurrents politiques ou nuire à des concurrents d'affaires, ont l'autorité de faire passer des armes en Haïti et à les livrer à des jeunes désœuvrés de manière à prendre la population en otage. Le Canada et les États-Unis réalisent que nous ne sommes plus en 1915. En 1915, lorsque les États-Unis ont décidé illégalement de nous occuper sous prétexte que nous étions une nuisance publique pour la région, alors que ce qu'ils appellent nuisance publique, c'est eux qui l'ont alimenté en renversant et en plaçant toutes sortes de gouvernements éphémères, en sorte qu'au dernier président éphémère, ils étaient déjà dans les eaux haïtiennes, trouvaient l'erreur. Et quelques semaines avant leur invasion officielle, ils sont entrés dans notre banque, ils ont volé notre réserve d'or, bande de voleurs. Et c'est pour ça qu'ils veulent revenir. Parce qu'Haïti recèle des richesses insoupçonnées. Haïti recèle des ressources qu'ils ont le culot de considérer comme leur réserve stratégique de ressources. Et le Canada et les États-Unis décident de faire d'Haïti, si vous voulez, leur grenier en matière de ressources rares. Voilà pourquoi ils laissent entrer des armes illégales en Haïti. Voilà pourquoi ils laissent pourrir la situation en Haïti. Et n'allez surtout pas croire que ce qui se passe là en Haïti n'est pas contrôlé par les États-Unis et le Canada. C'est contrôlé par les États-Unis et le Canada. Dixit Madame Lalim, représentant du bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Il faut la fédération des gangs, car ce faisant, nous allons pouvoir mieux les contrôler. Donc vous les contrôlez, Madame Lalim. Et donc il y a cette petite fissure dans la forteresse du Canada, des États-Unis et des Nations Unies. Eux qui pensaient pouvoir entrer en Haïti comme dans un moulin. Eux qui pensaient pouvoir entrer en Haïti comme dans une savane et qu'ils seraient applaudis par un peuple de nègres, idiots, enfantins, imbéciles. Mais non, ils réalisent que c'est un peuple intelligent, c'est un peuple qui a appris de ses erreurs. Et qui dit 1915 n'est pas 2022, ne mettez pas vos putains de pieds sur le territoire de Dessalines. Et si vous osez le faire, chaque Haïtien sera transformé en une bombe, rien de moins. Chaque Haïtien sera transformé en un Rwanda, rien de moins, et vous allez le regretter. Le voici, il vient de sortir de presse. Eh bien, comme convenu, depuis le 1er octobre, donc il est disponible, et ceux qui l'avaient précommandé sont en train de le recevoir ou vont le recevoir. Au fait, ceux qui avaient commandé la version française sont en train de recevoir leur copie. Quant à la version anglaise, elle sort de presse le 10 octobre prochain, et si vous l'aviez précommandé, vous allez recevoir votre copie dans les jours qui suivent. C'est une biographie à laquelle j'ai consacré beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie, plus de 390 pages de biographie sur Toussaint Louverture. On y découvre un Toussaint Louverture très fier, un Toussaint Louverture sans complexe, un Toussaint Louverture très proche de son peuple. Il recevait tous les soirs en sa résidence Monsieur et Madame Tout-le-Monde pour s'assurer que ses politiques publiques étaient en parfaite adéquation avec les besoins de son peuple. On y découvre aussi un Toussaint Louverture qui construisait des écoles, qui construisait des villes, un Toussaint Louverture qui prononçait des discours dans l'intention ferme que ses phrases soient retenues par la postérité. Et en parlant de phrases, je vais vous faire une citation au fait de Toussaint Louverture. C'est l'une de ces phrases que je préfère, d'autant qu'elle est pertinente dans notre Haïti d'aujourd'hui. Écoutez ce qu'avait prononcé Toussaint Louverture lors d'un discours au Mall Saint-Nicolas. « Il est facile d'abattre l'arbre de la liberté, mais pas si facile de lui redonner vie. » Je pense que nous sommes en train de vivre cela. Il est tellement facile d'abattre quelque chose de grand, quelque chose de noble, mais s'agissant de reconstruire, n'est-ce pas, cet héritage, c'est plus difficile. Honnêtement, c'est un livre à avoir, c'est un livre à lire en tant que noir, en tant qu'haïtien, en tant que personne de bonne volonté qui s'intéresse à l'autodétermination des peuples. C'est un livre à donner, à passer à ses enfants pour qu'on réalise à quel point nos ancêtres étaient en avance sur leur temps. Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime, désormais disponible partout et en particulier sur mon site. Toussaint Louverture, avez-vous votre copie? Allez, à bientôt. Ce disant, je reconnais qu'il y a un problème d'insécurité en Haïti. Un problème d'insécurité qui est confiné, heureusement, dans l'agglomération de Port-au-Prince. Ce problème d'insécurité ne se pose pas ailleurs que dans l'agglomération de Port-au-Prince. Et c'est déjà assez intéressant, c'est déjà assez révélateur que ces fiefs-là se trouvent dans des endroits précis. Ok. Puisqu'il y a un problème d'insécurité en Haïti, la question est la suivante. Est-ce que nos forces de police ont la capacité de répondre à ce problème d'insécurité? J'ai posé à plusieurs reprises la question au colonel Himmler Rebu, qui connaît ça mieux que vous et moi, lui qui était le commandant d'une force spécialisée au sein de la défunte armée d'Haïti, le corps des léopards. J'ai posé la même question au commandant Mario Andressol, lui qui était le commandant de la police haïtienne, et les deux ont dit, à chaque fois, répondant à ma question, oui, la police haïtienne peut résoudre le problème. Pour qu'elle parvienne à résoudre le problème, il faut de un, qu'on lui donne les moyens techniques de le faire. Et Mario Andressol en particulier avait dressé une liste d'équipements techniques, d'équipements militaires qu'il faut fournir à la police, de un. De deux, il faut qu'il y ait un ordre politique permettant à la police d'accomplir son travail. Et lorsque j'ai reçu Mario Andressol sur mon plateau, allez chercher cela sur ma chaîne YouTube, Mario Andressol a dit, écoutez, si on nous donne à nous, les policiers, les équipements militaires que nous réclamons, et s'il n'y a pas d'empêchement politique à ce que nous agissions en 6 semaines, Mario Andressol l'a dit, je serai en mesure de résoudre le problème. Est-ce que vous entendez ça? Donc l'idée de dire que les bandits ont plus d'armes que les policiers, l'idée de dire que, n'est-ce pas, les bandits nous contrôlent au point que même la police n'arrive pas, n'est-ce pas, à les gérer, c'est de la foutaise tout cela, c'est de l'enfumage, car ceux qui connaissent la réalité de la chose de la sécurité publique, les Mario Andressol, les Himmler Rebu disent non, il nous faut de l'équipement. Et vous notez l'hypocrisie du Canada? Je veux taper aujourd'hui sur le Canada. Car le Canada nous a baisés en nous trompant avec son image angélique. Jusque-là, si vous demandiez à un Haïtien qu'est-ce qu'il pensait du Canada, mais il vous dirait le Canada, c'est un pays qui ne fait du mal à personne. Le Canada, c'est un pays qui ne vole les ressources de personne. Le Canada, c'est un pays qui n'a aucune visée hégémonique. Faux. Le Canada, c'est un pays néocolonialiste. Le Canada, c'est un pays qui veut continuer à s'enrichir en continuant à faire main basse sur nos richesses. Et quand la police ou quand l'État haïtien, sous pression de Mario Andesrol, sous pression d'Himmler et Bu, a fini par acheter, n'est-ce pas, pour plusieurs millions de dollars d'équipements militaires au Canada depuis l'été, le Canada a traîné les pattes, le Canada a patiné, et finalement, sous la pression des Haïtiens qui commençaient à pointer du doigt l'hypocrisie justement de l'ambassadeur du Canada accrédité à Port-au-Prince, sur les 12 chars blindés que Haïti a commandés et qu'il a payés, le Canada nous a envoyé 3 chars. 3 chars. Je vais parier un petit 2 dollars avec vous. Je suis sûr que les chars que le Canada nous envoie ne valent pas de la merde. Et que dans les prochaines semaines, vous allez entendre dire que ces chars-là tombent en panne pour toutes sortes de raisons. Car les chars que le Canada envoie en Haïti ne sont pas les chars que le Canada a envoyés en Ukraine. En Ukraine, c'est un pays de blancs, aux yeux bleus. L'Ukraine, n'est-ce pas, c'est un pays qu'on veut protéger contre l'invasion. Suivez mon regard des Russes. Mais Haïti, c'est un pays nègre, on s'en fout. Même si Haïti a eu le malheur de nous payer 18 millions pour nous acheter des équipements, nous allons leur envoyer des équipements merdiques. Et pariez un 2 dollars avec moi, si vous êtes prêts à les perdre dans les prochaines semaines, ces chars que le Canada a vendus à Haïti vont tomber en panne. Parce qu'ils ne veulent pas coopérer à résoudre le problème. Ils ont leur propre plan en tête. Ils veulent nous envahir pour 50 ans de manière à voler nos ressources rares dont ils auront besoin avec le virage écologique. Et ils veulent surtout effacer Haïti de la carte du monde pour en faire une province de la République dominicaine. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre le problème d'insécurité en Haïti? La première des choses, il faut renverser le gouvernement. Ah oui, bien sûr. Le poisson pourri de la tête. Si la situation a pourri pendant tout ce temps-là, c'est parce que le gouvernement, le régime PHTK, participe de cette insécurité. D'ailleurs, le gouvernement de Michel Martelly, suivi du gouvernement PHTKiste de Jovenel Moïse, disait qu'il faut fédérer les gangs de manière à terroriser nos adversaires politiques qui ne pourront jamais participer à des élections, qui ne pourront jamais manifester contre nous. Vous saviez comment ils appelaient ça? Ils appelaient ça la politique du traitement de choc. Il faut armer les barbecues. Il faut armer le G9. Il faut armer les 400 Marozo, il faut armer, n'est-ce pas, les ISO, pour quelle raison? Pour terroriser nos adversaires politiques, de telle sorte que les gens de bien ne pourront jamais participer à des élections. Donc, on ne peut pas résoudre un problème avec ceux qui l'ont créé. La première des choses qu'il faut faire, si on veut résoudre le problème d'insécurité en Haïti, vous changez de gouvernement. Voilà pourquoi il faut se révolter. Il faut bloquer le pays jusqu'à ce qu'Ariel et sa bande de traîtres foutent le camp. Jusqu'à ce qu'Ariel et sa bande de traîtres déguerpissent. Et vous notez justement que c'est depuis le moment où le peuple haïtien dit à Ariel « vous devez quitter » que tout à coup le Canada, que tout à coup les États-Unis s'activent à nous entrer dans la gorge une occupation militaire parce qu'ils veulent garder Ariel. Ariel, c'est leur dernière ressource pour qu'il n'y ait jamais d'enquête sur l'assassinat de Jovenel Moïse, car ils savent qu'ils sont impliqués. Ariel, c'est leur dernier rempart pour qu'il n'y ait jamais d'enquête sur les fonds pétro-caribés, parce que ceux qui ont volé les fonds pétro-caribés ont placé leur argent dans les comptes américains. En passant, si vous voulez punir ceux qui arment les gangs, gelez dans les comptes d'Abidjo. Les Pandora Papers, l'année dernière, avaient nommément cité Bidjo comme ayant des comptes faramineux dans des banques offshore. Gelez les comptes de Bidjo, gelez les comptes de Michel Martelly, gelez les comptes, n'est-ce pas, de Laurent Lamothe, gelez les comptes de Meuse, parce que ce sont ces salauds-là qui arment nos jeunes. Donc la première des choses à faire, si on veut résoudre le problème d'insécurité, il faut renverser Ariel et sa bande de traîtres. Car c'est eux qui empêche le haut commandement de la police de lancer des policiers aux trousses de ces gangs armés. Prenez le temps de regarder les adresses à la Nation de Barbecue. Lui, il donne des entrevues à tout le monde. Suivez le langage corporel, le body language de Barbecue. Il n'est pas inquiété. Il a l'assurance de l'impunité par ses patrons. Ses patrons, c'est Madame Lalime, représentante du BINU. Ses patrons, c'est Ariel. Ses patrons, c'est Bijo. Ses patrons, c'est Bossan. Ses patrons, c'est Meuse. Ses patrons, c'est Michel Martelly. Mais suivez donc ces gangsters. Ils agissent à visière levée. Tout le monde connaît le nom de Barbecue. Barbecue n'est pas en fuite comme autrefois Ben Laden. Il ne dort pas chaque soir dans une maison différente. Il est dans son fief, il est protégé, il est assuré, parce qu'il sait que le pouvoir en place ne lèvera pas le petit doigt pour le punir. Donc si on veut résoudre le problème de sécurité, c'est pas compliqué. Nous devons renverser Ariel. Et vous notez que je ne l'appelle plus Premier ministre Ariel. Les bandes de voleurs qui l'entourent, je ne les appelle plus gouvernement. Ce sont des vauriers, ce sont des traîtres. Il faut les punir de toutes les manières. Bravo Moïse Jean-Charles. Continuez de bloquer le pays de toutes les manières. Continuez de demander au peuple d'arrêter les bandes de traîtres, les 19 traîtres qui ont signé cette demande scélérate pour une évasion d'une armée étrangère du territoire de Dessalines. Il faudra les punir, ces 19 traîtres-là. Et je suis d'accord avec Moïse Jean-Charles. Quand il lance cet appel général au peuple haïtien, donnez-nous l'adresse de ces 19 traîtres et nous allons leur rendre visite pour leur donner de l'affection. Car ils méritent de l'affection, suivez mon regard. S'ils trahissent à ce point Haïti, il faut leur donner de l'affection. S'ils osent, pour protéger leur pouvoir, demander qu'on nous envahisse pendant 50 ans, il faut leur donner de l'affection. Donnez-nous leur adresse et on ira les visiter. Et Moïse Jean-Charles, je vous donne ce conseil, puisque je vous soutiens là-dedans. Il faut aussi donner de l'affection à Madame Lalime. Ah oui, bien sûr. Je vous le dis, il ne faut pas que le diplomate du Canada accrédité à Port-au-Prince se sente en paix. Il ne faut pas que Madame Lalime, qui a le contrôle des gangs, se trouve en paix. Il faut qu'ils rentrent chez eux. Il faut que la sécurité soit telle qu'ils soient stressés, qu'ils retournent chez eux. Donnez-leur de l'affection. Et vous savez à quel type d'affection je pense? Exactement le type d'affection que les Maliens ont servi aux diplomates français. Fini les colonies. Fini ce temps où il fallait courber la tête devant un blanc. Fini le temps où il fallait, n'est-ce pas, remettre la clé de son pays à des diplomates étrangers parce qu'ils viennent de l'Occident. Non, ce temps-là est fini. Si vous prenez fait et cause pour l'autodétermination, pour l'Ukraine, eh bien nous aussi nous y avons droit. Bande de corrupteurs.
Depuis plus de 40 ans, il est le visage de la fiabilité, du sérieux et du professionnalisme en matière de produits financiers. Son nom, Louis-Yves Lucien. Pour toutes vos questions concernant la vente, l'achat, le financement ou le refinancement d'une propriété au Québec, c'est lui la solution. Louis-Yves Lucien. Au téléphone 514-867-8352. Son email, lilucien@commercialroyallepage.ca. Louis-Yves Lucien, la fiabilité à portée de main.
Donc si on veut résoudre le problème d'insécurité en Haïti, on doit, primo, renverser Ariel et sa bande de traîtres. Segundo, un nouveau gouvernement étant mise en place, nous allons solliciter la coopération technique auprès de certains pays pour des équipements précis. Exemple. Vous savez, je m'informe régulièrement sur les agissements des pays, de tous les pays du monde, tant les pays que j'aime que les pays que je n'aime pas. Est-ce que vous vous souvenez que sous le gouvernement de Donald Trump, exemple, les États-Unis avaient décidé d'assassiner, on va dire de supprimer un général iranien? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait, grâce à un drone, ils ont cartographié l'endroit où se trouvait le général. Non seulement l'ont-ils cartographié, donc ils avaient une vue claire de l'espace sur lequel, n'est-ce pas, se promenait le général. Un, deux, ils l'ont localisé, donc voici où il se trouve très précisément. Et trois, ils lui ont largué une bombe. Et en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 seconde, disait Donald Trump. Donald Trump assistait à l'assassinat en direct depuis son war room, n'est-ce pas, au bureau ovale de ce général. Eh bien, imaginez, les amis, que contrairement à un Ben Laden, et je rappelle l'exemple de Ben Laden, contrairement à un Ben Laden qui était en fuite, qui passait de l'Afghanistan à plusieurs autres pays, au Pakistan, etc., les jeunes gangstérisés par l'État haïtien et par la communauté des nations malveillantes et par les oligarques, ils sont dans leur fief. Lorsque nous aurons eu un vrai gouvernement, un gouvernement qui veut véritablement résoudre le problème, nous allons faire appel à de la coopération technique. Pour qu'on nous fournisse des drones nous permettant de cartographier les fiefs de ces bandits, qu'on puisse les localiser dans un deuxième temps, on sait que barbecue dort à telle place, et de trois, on y largue, n'est-ce pas, quelques armes, et bingo, c'est réglé. Et ce que Mario André Sol nous avait dit, il connaît ces gangsters-là. Cherizier faisait partie du corps de la police au moment où Mario André Sol en était le directeur. Quand vous commencez à décapiter ces gangs-là, les autres vont mettre bas les armes. Ça, c'est deux. De trois. On va donc, là encore, faire appel à de l'aide, à la coopération technique pour nous aider à sécuriser nos frontières. Nous savons que beaucoup de ces armes-là transitent par la République dominicaine. Eh bien, si les autres pays arrivent à contrôler leurs frontières grâce à des équipements techniques, nous pouvons nous aussi le faire grâce à de la coopération. Nous savons que nous ne pouvons pas compter sur les États-Unis pour contrôler les armes en amont, pour qu'elles ne laissent pas Miami. Les États-Unis ne veulent pas nous aider. Mais nous allons, exemple, faire appel à d'autres pays. Pourquoi pas la Russie? Tenez à bon. Je dis la Russie, je suis sûr que l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince est en train de pisser dans son pantalon. Et vous notez que de plus en plus, des jeunes dans le Nord héroïque, le nord de Bookman, le nord de Macandal, le nord de Toussaint Louverture, le nord de Jean-Jacques Dessalines. Vous notez que les jeunes dans le grand nord de Capois-la-Mort, sont en train de hisser le drapeau de la Russie, sont en train de hisser le drapeau de la Chine, parce que ces jeunes savent à quel point les Américains sont pervers vis-à-vis de nous. La coopération technique sera utile, mais pas l'invasion d'une armée. La police a les capacités, moyennant un appui technique précis pour résoudre le problème. Et une fois qu'on aura éliminé ces gangs, une fois qu'on aura éliminé ces jeunes désœuvrés qui sont gangstérisés par les oligarques, maintenant il faudra s'occuper de la source du problème. Ah oui, bien sûr. La source du problème? Arrêtez ceux qui ont importé des armes en Haïti, nous les connaissons. Le colonel Himmler Rébu nous a dit sur notre plateau avoir donné au président une liste de quoi? 14 ou 15 familles qui importent des armes en Haïti. Ces familles-là, il faudra les arrêter. Il faudra leur donner de l'affection. Ce n'est pas normal dans un pays qu'un bidio possède un port privé, grâce auquel il fait entrer tout ce qu'il veut, sans que l'État n'ait son mot à dire. Ce n'est pas normal que les Bossans, que les Dibes, que les Meuses, n'est-ce pas, puissent contrôler certains ports, certaines douanes haïtiennes, mon Dieu! Et tout cela s'est fait avec la complicité du gouvernement de Michel Martelly, avec la complicité du gouvernement de Jovenel Moïse, avec la complicité du gouvernement d'Ariel, qui n'est plus chef de gouvernement de rien du tout. Il faudra, pour reprendre, n'est-ce pas, la formule de Moïse Jean-Charles, leur donner de l'affection à ces gens-là aussi. Personne ne doit être au-dessus de l'affection populaire. Il faudra donner de l'affection aux bidiots, donner de l'affection à tous ces salauds-là qui ont pris d'assaut nos douanes. Donc vous réalisez, les amis, qu'il n'y a pas de crise humanitaire généralisée en Haïti, non. Il y a un problème d'insécurité qui peut être résolu. Il y a un problème de sécurité qui peut être réglé. Et il n'y a pas de crise alimentaire parce que les salauds ont pris le contrôle de certains terminaux de carburant pour se nuire les uns aux autres. C'est l'ougarou qui a battu madame Lee. Donc, on renverse le gouvernement d'Ariel pour qu'il n'y ait plus d'empêchement politique. On met en place un gouvernement qui a la sensibilité populaire. OK? Trois, on offre un appui technique à la police grâce à la coopération de pays qui veulent vraiment nous aider à résoudre le problème, et je ne parle pas du Canada, encore moins des États-Unis. Et trois, on s'occupe en donnant de l'affection de ceux qui font entrer des armes en Haïti. Einstein disait qu'un problème sans solution est tout simplement un problème mal posé. Et c'est pour cela que, depuis deux semaines, je vous parle des pseudo-solutions des Nations Unies, parce que les Nations Unies, avec la complicité du Canada et la complicité des États-Unis, choisissent volontairement de poser un faux diagnostic sur le problème des sécurités en Haïti, de manière à nous entrer dans la gorge une pseudo-solution. Voilà pourquoi il faudra chasser l'ambassadeur du Canada accrédité à Port-au-Prince. Il faut le chasser! Comme les Maliens chassaient les diplomates français. Je veux rien savoir du Canada. Il faut donner de l'affection à Madame Lalime, la chasser aussi. Parce que c'est elle qui contrôle les gangs. Vous demandez, mais Ariel, une fois parti, est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver avec un gouvernement pire, avec les Lambert, avec les Youri la Tortue? Nullement. Nous sommes déjà, nous, les Haïtiens de la diaspora, nous sommes déjà en consultation pour une alternative. Et une fois qu'Ariel aura été renversé, ne pensez pas qu'on va laisser l'espace vide pour être comblé par les mêmes salauds qui ont mis en place le système plantationnaire, qui ont mis en place le système néo-féodal, non. Haïti n'appartient pas plus aux Haïtiens du dedans qu'aux Haïtiens du dehors. Ce n'est pas un crime de vivre aux États-Unis, ce n'est pas un crime de vivre au Canada, ce n'est pas un crime de vivre au Chili ou à l'étranger ou en diaspora. Nous allons, nous les Haïtiens de l'extérieur, jouer un rôle politique névralgique dans cette nouvelle Haïti. Car nous réalisons que les Haïtiens du dedans souffrent de certains nombres de faiblesses que nous, les Haïtiens de la diaspora, nous n'avons pas. D'abord, le blanc ne peut pas nous faire peur avec sa menace de suppression de visa, avec sa menace d'annihilation de notre visa. On les emmerde, ces blancs-là, car nous les connaissons, nous vivons avec eux. Nous savons qu'ils sont des corrupteurs. Le blanc ne peut pas tenter de nous acheter sous prétexte que si nous ne lui obéissons pas, eh bien, il va nous punir avec son visa. Et vous savez, quand je vous dis que le blanc, c'est un véritable corrupteur, par blanc, j'entends les diplomates étrangers accrédités en Haïti. J'ai eu au téléphone, il y a deux jours, écoutez cette histoire, un ancien ambassadeur de l'Ouest Il était ambassadeur, un ancien sénateur de l'Ouest. Donc il était sénateur sous la présidence de Jovenel Moïse. Écoutez-moi bien, les amis. Ce monsieur nous dit, à un moment donné, le Canada et les États-Unis arrivaient avec un projet de loi au Parlement haïtien. Vous entendez ça? Le Canada, les États-Unis, donc les ambassadeurs du Canada, les États-Unis et quelques représentants des entités internationales sont arrivés avec un projet de loi dans le Parlement haïtien. Ce projet de loi concernait la légalisation de l'homosexualité, ce projet de loi concernait la légalisation de l'avortement, ce projet de loi concernait la libération des mœurs littéralement en Haïti. Et ce sénateur faisait clairement comprendre à ses diplomates que sociologiquement, le peuple haïtien n'est pas encore prêt à ces choses-là. Le Canada est peut-être prêt. Les États-Unis sont peut-être prêts, mais le peuple haïtien n'est pas prêt à légaliser l'homosexualité et à légaliser l'avortement. Tout le monde sait que le droit et la sociologie doivent marcher ensemble. Vous savez ce que l'ambassadeur du Canada et l'ambassadeur des États-Unis ont dit à ce monsieur? Si vous refusez de voter pour cette loi, nous allons tout simplement couper votre visa. Et 48 heures plus tard, il a reçu une lettre l'informant que, puisqu'il refusait de voter dans le Parlement haïtien une loi conduite par des diplomates étrangers en Haïti, on lui a coupé le visa. Est-ce que vous entendez ça? Quand je vous dis là, il faut chasser ces ambassadeurs-là. Il faut chasser les ambassadeurs du Congo. On n'a plus besoin d'un ambassadeur du Canada à Port-au-Prince. On n'a plus besoin d'un ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince. On n'a plus besoin de ces mafieux du Congo. Ce sont des corrupteurs. Vous avez une autre illustration. En droit, un parlement, c'est le dépositaire de la souveraineté nationale. À côté, bien sûr, de l'exécutif. À côté, bien sûr, du pouvoir judiciaire. Ils sont venus avec leurs lois. Et ils ont menacé chaque sénateur, chaque député qui allait voter contre cette loi. Et la plupart d'entre eux étaient prêts à des compromis, à des compromissions, devrais-je dire, parce qu'ils avaient peur qu'on leur coupe le visa. Et donc, je vous ai dit, nos frères d'Haïti, eux, ils ont des vulnérabilités que nous, de l'étranger, nous n'avons pas. Nous ne craignons pas la suppression des visas. 9 fois sur 10, nous avons la citoyenneté de leur pays. Et ils ne pourront pas la révoquer. Donc nous avons la capacité de regarder le blanc dans les yeux et de lui dire « merde ». Nous avons la capacité de le regarder et de négocier avec lui, n'est-ce pas, d'homme à homme. Et nous avons surtout la capacité de lui dire « foutez-vous dehors, nous n'avons plus besoin de vous et nous en sommes là ». Et donc ce n'est pas vrai que si Ariel est renversé demain matin, on va laisser l'espace à Lambert, on va laisser l'espace, n'est-ce pas, précisément à ceux qui nous ont foutus dans cette merde. Et vous savez pourquoi Ariel n'écoute pas les gens de Montana? Parce que en 2004, la plupart de ces gens de Montana étaient avec Ariel, en train de renverser un gouvernement démocratique. À ce moment-là, il se faisait appeler le Conseil des Sages, Sage mon œil. Et là, ce fameux Conseil des Sages qui a merdé pendant ces dernières années, parce que la plupart d'entre eux étaient ministres, n'est-ce pas, sous le gouvernement de Gérard Latortue. Eh bien, 19 ans plus tard, Ariel se retrouvant à la tête du pays grâce au tweet du corps groupe ne veut rien savoir de ceux avec qui il avait comploté pour renverser un gouvernement démocratique. C'est comme s'il est en train de dire, n'est-ce pas, à Madame Magali Komo, ce que vous savez, je le sais aussi, nous étions dans le même foutu conseil de sages qui a renversé un gouvernement démocratique. Je n'ai pas peur de vous. Donc Ariel n'écoutera pas ces gens-là. Et tant mieux. Cela nous laisse du temps à nous, les Haïtiens de l'extérieur, de monter une alternative sérieuse, une alternative compétente, une alternative patriotique, une alternative intègre pour faire une offre politique au pays de manière à lancer pendant les 5 prochaines années une véritable transition. Une transition au cours de laquelle nous allons adresser les chantiers fondamentaux d'Haïti. L'éducation, la sécurité, la création de l'emploi, les infrastructures, le design de l'État, donc la réingénierie de l'État, etc. J'en ai parlé dans mon livre, les 14 chantiers qu'il nous faut aborder pour une nouvelle Haïti. Si j'étais à New York cette fin de semaine, c'était aussi pour avoir des pourparlers en vue d'une médiation qui sera conduite par des Haïtiens de l'extérieur. C'est fini la récréation. C'est fini le temps où les Haïtiens de l'intérieur nous font croire que c'est un crime que de vivre à l'étranger et qu'ils nous placent des verrous pour nous empêcher d'exercer notre droit politique. C'est fini ça. Pas d'invasion militaire. On résout le problème de sécurité en renversant Ariel et sa bande de traîtres, en plaçant à la tête du pays un gouvernement formé de gens patriotes, compétents et intègres, tant de l'extérieur que de l'extérieur, d'hommes et de femmes, avec un mandat clair pendant 5 ans pour lancer les 14 chantiers fondamentaux du pays. Un nouveau gouvernement étant mis en place, il n'y aura plus d'empêchement politique à l'action policière. Et nous allons nous adresser à des pays de bonne foi pour de la coopération technique, de manière à nous aider à cartographier, à localiser et à neutraliser ces jeunes qui sont gangstérisés. Et une fois que nous les aurons neutralisés, nous allons nous tourner vers ceux qui les ont armés pour leur donner de l'affection. C'est le méchant qui doit avoir peur. Ce sont les meuses qui doivent avoir peur. Ce sont les Bidjo, les Bossan, les Ronnie Célestin, les Laurent Lamotte, les Michel Martelly, les Joseph Lambert, tous ceux qui ont armé des jeunes pour nuire à des concurrents d'affaires ou des concurrents politiques. Et quant aux États-Unis et au Canada qui font de l'enfumage, on ne vous prend plus au sérieux. Gelez les comptes de Bidjo. Gelez les comptes de Michel Martelly. Gelez les comptes des Meuses. Gelez les comptes, n'est-ce pas, de Laurent Lamotte. Tous ceux qui ont pillé la caisse de l'État. Alors là, on recommencera à vous croire. Mais en attendant, décarbissez de chez nous. Moïse Jean-Charles et tous ceux qui sont dans cette lutte féroce pour le renversement de Jovenel Moïse, de Ariel Henry, vous avez tout notre appui. Donnez de l'affection à ceux qui nous font du mal. Donnez de l'affection aux diplomates qui osent mettre leurs pieds sur le cou du peuple haïtien, qu'ils ne se sentent pas en paix dans le pays de Jean-Jacques Dessalines. J'espère vous avoir été utile. Merci d'avoir été à l'écoute. On garde le moral, car tant que va le moral, tout va. On s'abonne à cette chaîne, on partage nos émissions, on les like et on devient une force critique pour faire entendre notre voix. Merci d'avoir été là. Continuez à commander notre dernier livre, notre dernier opus sur Toussaint Louverture. Ceux qui le lisent savent que c'est un petit bijou. Commandez-le. Merci de votre encouragement. Allez, au revoir, bonne semaine, à la semaine prochaine. Au revoir.